Je ne sais pas. C'est bon? Problème technique? Je ne sais pas. Bon, en Afrique, j'ai jamais utilisé de micro. Ah, ça vient? C'est bon. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis doublement dans la joie d'être ici, parce que vous ne pouvez pas le croire, mais nous sommes revenus depuis l'Afrique, ça fait presque 3 ans. J'ai peut-être prêché, je ne sais pas, 5, 6 fois. Eh bien, c'est la première fois aujourd'hui que ma chère épouse est là et peut m'écouter prêcher. Alors, merci. Je t'aime. Elle est une femme très occupée, hein? Donc, voilà. Alors, nous sommes à la fin de notre série sur la lettre aux Philippiens, la lettre, l'épître de la joie, hein? Mais cette série, vous savez, elle a été portée par plusieurs prédicateurs, donc il me faut quand même de vous donner un petit résumé. Il y a eu Luc qui nous a parlé de la joie dans la communion. Il nous a parlé de la richesse du koinonia, la communion fraternelle, le prendre part, c'était son mot clé. Parce que Paul est dans la joie lorsque, à cause de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant, et Luc, il a aussi exprimé sa joie que vous prenez part aussi au travail de cette église. Ensuite, il y a eu Jean-Jacques qui nous a parlé de la joie dans la souffrance. Bon, c'est un thème pas très réjouissant, mais qui est à la base d'une vie ancrée dans le Seigneur. La phrase clé de Jean-Jacques était: En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Il nous a parlé aussi de nos frères et sœurs qui souffrent dans les pays de l'index de Porte ouverte. Encore à Jean-Jacques de nous dire, malgré la terreur dans ces pays, la foi de ces hommes et ces femmes reste puissante. Ensuite, il y a eu Luc qui est revenu, il a parlé de la joie dans le service. Oui, son verset clé était: Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Nous avons découvert qu'il y a toujours de la place pour plus de joie. Et l'unité dans le service est un élément essentiel pour avoir une joie parfaite, une joie complète. Et nous avons eu Alain qui nous a parlé de la joie dans la foi. Il nous a donné l'antidote à toutes les maladies de la foi avec le verset: Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il nous a parlé de 897 sentiments ou émotions que nous pouvons expérimenter, mais surtout, il nous a parlé de l'impossibilité de trouver la vraie joie sans passer par la repentance et la conversion. Et finalement, nous arrivons aujourd'hui au thème la joie dans le don. Cela ne veut quand même pas dire la fin de vos réflexions ou la fin du travail que Dieu veut accomplir en vous au travers de cet épître de la joie. En effet, toujours dans Philippiens, nous lisons: Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Donc, continuons à travailler autour de cette lettre qui est très riche. Et pour aujourd'hui, je vais vous lire dans le chapitre 4, les versets de 10 à 20. Qui touche à notre thème, hein, d'une manière particulière. C'est Paul qui parle. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, je pense que si vous avez digéré les thèmes des dimanches passés, vous pouvez intégrer aussi celui d'aujourd'hui. Il est vrai que ce thème peut provoquer certains démangeaisons, car quand on parle d'argent, nous avons souvent la chair de poule. Vous savez, bientôt, dans un mois, il y aura l'AG de l'Église. On parlera aussi beaucoup des finances. Alors aujourd'hui, je ne vais pas trop vous déranger. Hein? En tout cas, j'espère que vous serez surpris en bien. D'abord parce que ce n'est pas Luc qui prêche, hein? Car on pourrait penser qu'il voudrait ajouter de l'eau à son moulin. Ensuite, parce que pour mes 10 ans de vie missionnaire, je peut entrer pleinement dans la peau de Paul en tant que missionnaire vis-à-vis des Philippiens donateurs. Je pense que le chapitre 4 n'est que la conséquence des 3 précédents. Alors, analysons un peu ce chapitre pour approfondir le thème d'aujourd'hui. Donc, dans ces versets que nous avons lus, il y a ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. C'est un peu schématisé, parce qu'en réalité, c'est bien plus complexe, parce que ce qui donne, il reçoit aussi. Et ce qui reçoit, il donne aussi. Néanmoins, restons sur le simple pour comprendre un peu ce que cette lettre veut nous apprendre. Alors, ceux qui donnent sont les Philippiens, et ceux qui reçoivent, c'est Paul. Déjà, en ce moment, il y a certains commentateurs qui s'étaient un peu surpris et se sont posé une question. Ils ont dit pourquoi l'apôtre a attendu la fin de la lettre pour remercier les Philippiens. En effet, on ressent dans la lecture un certain embarras, une certaine retenue de Paul face à ce don reçu. C'est encore au commentateur de dire que finalement, Paul, il a remercié sans vraiment remercier. Alors j'ai réfléchi à ça, pourquoi ? Une des motivations, on pourrait la trouver dans la lettre aux Corinthiens. Nous lisons les versets 15 et 18. Quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits, c'est Paul qui parle, hein, et je n'écris pas pour Je n'écris pas cela pour qu'il me soit accordé, car j'aimerais mieux mourir plutôt que de me laisser enlever ce sujet de fierté. Quelle est donc ma récompense? Verset 18, c'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ que j'annonce, sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'évangile. Alors nous trouvons ici Paul qui se déclare fier de rien demander et d'offrir l'évangile gratuitement. Alors on pourrait comprendre l'embarras de Paul vis-à-vis de cette église qu'il a adoptée de son passage à Philippe et qui veut le soutenir à tout prix. Si Paul insiste tant dans son indépendance vis-à-vis des questions matérielles, c'est peut-être que les Philippiens, ils y attachent, eux, trop d'importance. Peut-être que les Philippiens se sont culpabilisés car ils voulaient donner plus de dons à l'apôtre. Et alors, Paul saisit l'occasion pour leur donner un enseignement sur le thème, et j'espère qu'il le soit aussi pour nous. Comme dit toujours Paul, quand il traite des questions financières, il utilise beaucoup de délicatesse et de tact. Donc il montre avant tout la joie et il essaye de déculpabiliser ses amis pour le temps qui s'est écoulé dans le silence. En effet, nous lisons le verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Donc, il reconnaît ce désir des Philippiens et dit, mais ne vous préoccupez pas, je comprends si vous n'avez pas pu le faire avant. Hein? Mais Paul, il veut non plus donner l'impression aux Philippiens de se plaindre pour le manque de fonds. Il tient au contraire à leur dire qu'il ne dépend pas de leur secours et qu'il ne cherche pas à en recevoir davantage. Et nous avons lu la suite, ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Si vous vous rappelez, lors de l'introduction de la série, Luc nous a parlé de la profonde affection que liait Paul aux Philippiens. En effet, cette épître est la plus personnelle et la plus affectueuse de l'apôtre. Elle révèle une place spéciale dans l'estime de Paul pour cette église. Mais Paul voudrait les voir plus attachés à Dieu qu'à lui-même, plus qu'à sa personne. Il est possible que l'apôtre discerne de la part des Philippiens la tendance à mettre trop d'importance sur sa personne. Ce qui pourrait motiver la suite de notre passage, quand Paul nous parle de sa capacité de vivre dans le contentement. Et c'est le verset 12. Et donc, Paul dit, je sais vivre dans la pauvreté, ça c'est une autre version un peu différente, mais c'est toujours la Bible. Et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Quelqu'un a dit, si le contentement ne produit pas de richesse, il le fait quand même en détruisant le désir d'en avoir. Donc, au travers de cela, au travers du contentement, le peu que nous avons devient une richesse si nous vivons dans ce contentement. Cela est vrai pour ceux qui reçoivent, mais il est vrai aussi pour ceux qui donnent. Hein, parce que ceux qui donnent, peut-être ils sont retenus, ils ont peur de manquer après de ce qu'ils ont besoin. Et ceux qui reçoivent, ils ont toujours peur de ne pas avoir assez pour leur travail. Donc, Le contentement, c'est une vraie bénédiction parce qu'il nous permet de garder la tête haute quand nous avons faim et de rester honnête quand nous avons les poches vides. Mais Paul veut enseigner les Philippiens et chacun de nous à regarder encore plus loin. En effet, quand Paul parle dans ce verset, il ne parle pas seulement de sa capacité d'avoir faim ou de vivre dans les difficultés. Nous trouvons dans ces versets plusieurs opposés. Nous trouvons l'abondance et la pauvreté, être rassasié, avoir faim, l'abondance, être dans le besoin. Eh bien, Paul sait de manière pertinente que le danger n'arrive pas uniquement de la pauvreté, mais aussi de l'abondance. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 28, nous trouvons les paroles de Agur, fils de Jaqué. Nous lisons les versets 7 à 9. Agur demande à Dieu, « Je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, sinon je risquerai, une fois rassasié, de te renier et de dire qui est l'Éternel, ou après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de mon Dieu. » Comment donc être protégé par ces deux dangers majeurs? Paul nous en révèle le secret. Et c'est le verset que vous avez trouvé sur votre feuillet. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Donc je peux tout, ça ne veut pas dire je peux faire tout ce que je veux. Mais je peux, avec la force du Seigneur, faire face à la pauvreté et faire face à l'abondance, pour que ces deux dangers ne me créent pas de problèmes. Je peux faire face aux besoins, je peux faire face à l'abondance avec l'aide de Dieu. Mais là où il y a l'abondance d'argent, réside aussi un plus grand problème, un plus grand danger, parce que là où il y a beaucoup d'argent, on risque de se lancer dans des opérations qui n'ont pas l'approbation de Dieu. Hudson Taylor, missionnaire en Chine, a dit un jour, « Ce dont nous devons avoir peur, ce n'est pas de manquer d'argent, mais plutôt d'avoir trop de fonds qui ne soient pas consacrés. » Mais Paul nous donne l'exemple. Le manque de soutien ou l'abondance du soutien ne peuvent pas enlever sa joie, la joie dans le Seigneur, car Paul a appris le contentement. La joie de Paul ne peut pas être enlevée non plus du fait qu'il est emprisonné et peut-être proche de la mort. Parce que, comme Jean-Jacques nous a rappelé, Christ est ma vie, et la mort met en gain. Chers frères et sœurs, l'apôtre Paul veut nous montrer que la joie dans le don est bien plus que mettre un peu d'argent dans la collecte de l'Église ou de soutenir un missionnaire ou une œuvre missionnaire. La joie dans le don est une conséquence, ou devrait être, une conséquence naturelle de tous les points que nous avons parlé les dimanches précédents, de la joie dans la communion, de prendre part à l'annonce de l'Évangile de manière concrète, mais aussi prendre part à la souffrance que l'apôtre Paul ou les pasteurs ou les missionnaires doivent vivre à cause de cette annonce. Il y a un verset que l'apôtre Pierre nous laisse, réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ. Donc, même l'apôtre Pierre nous encourage à vivre dans la joie, sachant que ce que nous subissons, c'est rien par rapport à ce que Christ a subi pour nous. En soutenant l'apôtre incarcéré, les Philippiens ont montré aussi la foi qu'ils avaient en Dieu. Nous savons par d'autres lettres que l'église de Philippe n'était pas une église riche, hein, mais ils ont fait les dons à l'apôtre. Et nous savons au travers de notre lettre aux Philippiens, Paul dit « Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Oui, les Philippiens savaient cela. Est-ce que nous avons cette foi lorsque nous donnons? Mais je vous dis, l'apôtre veut nous amener encore plus loin. Oui, il y a encore plus de ce que nous venons d'entendre. Mais c'est une chose tellement simple que nous l'oublions la plupart du temps. Donc la question, qu'est-ce qui fait peut-être défaut dans la compréhension des Philippiens et que nous avons aussi la difficulté à saisir pleinement? Oui, qu'est-ce qui fait ce problème? D'où ça vient? Et cette question nous introduit vers la fin, doucement vers la fin de mon message. Lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, les paroles de Jésus, notre Seigneur. Verset 1, Jésus dit « Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. » Alors je suis sûr qu'ici, il n'y a personne qui a le problème de faire des dons pour être regardé. Mais ce thème du regard m'a interpellé de manière différente. Peut-être je ne cherche pas le regard des autres quand je donne. Mais je me demande, sur qui je dépose mon regard lorsque je fais un don? Notre regard est sur la personne ou l'œuvre qui reçoit le don ou notre regard est sur Dieu? Désirons-nous être regardés ou désirons-nous la reconnaissance de ceux qui reçoivent les dons? C'est encore Paul de nous donner la clé. Il dit, ce n'est pas que je cherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Il faut déjà dire que cette dernière partie du verset est utilisée seulement dans la loi sacrificale, quand il fallait amener les animaux pour Dieu, n'est-ce pas? Nous donne déjà une piste de compréhension. Alors nous voyons ici que Paul ne se préoccupe pas de l'avantage que lui, il peut avoir, mais il se préoccupe plutôt des avantages que les Philippiens peuvent avoir en faisant ses dons. Il est vrai, il y a un amour particulier pour cette première église en Europe. C'est pourquoi Paul, il accepte d'être soutenu financièrement. Mais, comme déjà dit, les Philippiens donnent peut-être trop d'importance à sa personne. L'apôtre Paul doit les corriger pour que leur regard se déplace vers Dieu, qui est le véritable utilisateur de tous les dons dans tous les temps. Nous lisons 2 Corinthiens, il est dit que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Est-ce que je suis conscient du regard de Dieu sur ma main ou sur mon cœur lorsque je fais un don? Suis-je conscient du regard de Dieu sur ma main et sur mon cœur lorsque je fais un don? Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Pour soutenir des évangélistes, des pasteurs, des missionnaires, des églises, mais même pour soutenir la famille de notre voisin qui est dans le besoin, qui est en difficulté. Cela est vrai lorsque je prends conscience de ne pas donner à la personne, de ne pas donner aux missionnaires ou aux pasteurs, mais de donner avant tout à Dieu. Nous lisons encore dans les Proverbes. « Celui qui accorde en faveur aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. » Proverbe 19, verset 17. « Celui qui donne avec joie et qui a compris la véritable joie dans le don, met son argent à la disposition de Dieu et devient ainsi co-ouvrier, compagnon d'œuvre de Dieu lui-même. Encore Jésus à nous dire, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Je me suis dit, mais comment cela peut se passer? Eh bien, chaque fois que notre regard est sur Dieu, et qu'on reconnaît que nous donnons à Dieu et pas aux hommes, eh bien c'est là que nous amassons des trésors dans le ciel. Qu'il s'agisse de notre argent, de nos actions, de notre temps, de nos pensées, peu importe, chaque fois que nous donnons à Dieu et pas aux hommes, nous avons un trésor qui grandit dans le ciel. Notre don sera alors porté sur notre compte, comme dit Paul. C'est un compte épargne que nous avons auprès de Dieu dans le ciel. Et c'est ainsi qu'il deviendra un parfum de odeur, de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Je voudrais terminer avec une citation qui vient de John Henry Jouvet, peut-être ce n'est pas la bonne prononciation anglaise, je la prononce en français. Il était un prédicateur du 19e siècle. Il a écrit, et c'est lié à la lettre aux Philippiens, au passage que nous avons étudié, « Quelle portée peut avoir un geste généreux, apparemment localisé, comme le don des Philippiens à Paul ?» Nous pensions subvenir aux besoins d'un indigent et en réalité, nous nous adressions au roi lui-même. Nous imaginons que ce parfum ne se propagerait seulement autour de nous. En fait, il a traversé tout l'univers. Nous pensions avoir affaire à Paul et nous nous rendons compte que nous exercions un ministère en faveur de son Sauveur et Seigneur. Donc, vous avez vu dans ma prédication, il n'y avait pas de points, mais je vous les donne d'une manière orale à la fin. Le premier point, c'est ne regardons pas aux hommes, mais à Dieu. Et le deuxième point, très semblable, ne donnons pas aux hommes, mais à Dieu. Et c'est ainsi que nous aurons cette joie dans le don. C'est ainsi que nous aurons un compte épargne bien rempli dans le ciel. Et je veux terminer encore par la prière. Seigneur, tu nous as dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais tu sais aussi que nous pouvons mal donner. Peut-être pour être vus des hommes ou pour recevoir leur reconnaissance. Seigneur, aide-nous à bien donner. Aide-nous à avoir le regard sur toi, sachant que c'est toi le bénéficiaire et le gestionnaire de chaque don. Seigneur, je te prie, bénis les mains de ceux qui donnent pour la construction de ton royaume. Pourvois aussi aux besoins de tous ceux qui donnent avec joie. Seigneur, je te prie, aide-nous à découvrir davantage la joie dans le don. Amen.
Amen. Merci Raphaël.